Le 18-20 commence avec le premier journal de la soirée. Il est présenté par Ariane Grissel. Bonsoir Ariane.
Bonsoir.
L'essentiel de ce jeudi 26 décembre commence avec une modification de calendrier.
Chaque réforme sensible en son temps. Le gouvernement reporte le changement du calcul de l'APL, l'aide personnalisée au logement. Ce devait être pour le 1er janvier, ce sera le 1er avril. Des raisons techniques, dit-on au ministère. Difficile à croire, répond l'UNEF. La réforme des retraites, elle, toujours bien d'actualité. Nouveau cortège aujourd'hui à Paris. Pas question de se faire oublier, disent les manifestants. À suivre aussi les caméras piétons pour protéger les surveillants pénitentiaires. Mais qui protège les détenus, demande l'Observatoire international des prisons. Le Likoud en Israël qui devrait conforter la place de chef de Benjamin Netanyahou, même si ce n'est pas si facile, vous l'entendrez. Et puis, si après avoir déballé certains paquets, vous auriez préféré que le Père Noël oublie vos petits souliers cette année, on vous laisse face à votre conscience. Mais sachez-le, tous les déçus n'osent pas revendre leurs cadeaux sur Internet.
À 18h15, un jour dans le monde, nous sommes en Italie ce soir au cœur de la mafia, la N'Grangheta qui a été décapitée ces derniers jours, plus de 400 arrestations, le très grand chef sous les verrous. La N'Grangheta, c'est la mafia qu'on connaît le moins, contrairement peut-être à Cosa Nostra ou à la Camorra. On verra si la justice italienne a réussi à l'anéantir ou pas du tout, où sont ses ramifications, y compris en France. Le bruit du monde est au Bénin ce soir, on parlera d'éco-running, vous découvrirez ce que c'est. Et puis 19h20, le téléphone sonne, allez-y, le standard est ouvert, on vous offre ce soir une conversation avec Thierry Marx, le chef cuisinier, le chef d'entreprise, le grand amateur de judo, l'homme de télé. Il a écrit le dictionnaire de sa vie, on tâchera de le feuilleter ensemble et ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
Mais d'abord, la mort la nuit dernière de Claude Régis, metteur en scène, adepte des décors minimalistes et des jeux de lumière. Il a fait jouer entre autres Michel Bouquet, Pierre Brasseur, Emmanuel Riva. Lancé aussi la carrière sur scène d'un petit jeune de 24 ans, un certain Gérard Depardieu. 6 pièces ensemble, dont La Chevauchée sur le lac de Constance de Peter Hanke. Claude Régis avait 96 ans. Le spectacle n'a lieu que dans l'imagination du public, disait-il. Nous reviendrons plus longuement sur sa carrière dans le journal de 19h.
Allez, on en vient donc à cette décision du gouvernement de repousser la réforme des APL, les aides personnalisées au logement.
Le mode de calcul devait changer le 1er janvier, ce sera le 1er avril, une réforme contestée. Fini le calcul en fonction des revenus d'il y a 2 ans, ce sera sur la base des revenus actuels, donc plus élevés selon les opposants au projet. Le gouvernement reconnaît viser le milliard d'euros d'économies. Le ministre du Logement, Julien Denormandie, invoque des raisons techniques pour expliquer ce décalage. Pas vraiment crédible pour Mélanie Luce, la présidente du syndicat étudiant UNEF.
Des raisons techniques à 4 jours du lancement, c'est un peu difficile à avaler. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie dans le discours qui est tenu par le gouvernement, puisqu'on a à la fois Julien Denormandie qui nous dit que personne ne doit perdre 1 euro. En même temps, il nous dit que son objectif, c'est de faire des économies. Donc les deux choses sont incompatibles. S'il fait des économies, des allocataires perdent de l'argent. Et d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ceux qui ont été sortis, ce serait 1,2 million d'allocataires qui seraient impactés, près de 600 000 personnes qui risquent de perdre leurs aides, et surtout les étudiants en première ligne. On est très nombreux donc à travailler pour financer nos études, un contrat qui est pris pendant l'année universitaire et avec des APL en temps réel, ce contrat de travail va avoir un impact sur nos aides qui vont diminuer parce qu'on est salarié. Et on va donc se retrouver encore plus en difficulté. Je pense que dans un contexte où on a une précarité étudiante qui ne cesse d'augmenter, c'est aussi important que le gouvernement se rende compte qu'il n'y aura pas de contexte acceptable pour cette réforme et qu'il faut tout simplement l'abandonner, rester sur le système de calcul des APL qui fonctionne aujourd'hui.
Mélanie Luce, présidente de l'UNEF avec Fanny Oyer. L'APL, ce sera donc pour plus tard. Il faut dire qu'il y a une autre réforme à mener en ce moment. Vous nous voyez venir, celle des retraites. 22e jour de mobilisation, autant qu'en 95 contre la tentative de réforme par le gouvernement d'Alain Juppé. La prochaine grosse journée de manifestation est prévue le 3 janvier, mais les opposants au projet ne veulent pas se faire oublier d'ici là. Un nouveau cortège a eu lieu aujourd'hui à Paris, cortège suivi par Grégoire Le Callot.
Pas de carré de tête ni de grands patrons syndicaux. S'il y a des banderoles, ce sont celles des sections de base. Pour Guillaume, venu en vélo, pas question d'attendre la manifestation intersyndicale du 9 janvier.
Oui, c'est trop loin, c'est évident que c'est trop loin. On peut pas dire à des gens qui sont en grève depuis 22 jours, rendez-vous dans 15 jours. Enfin, après, il y a des manifestations qui se sont organisées. Ça permet aux gens de toujours être dans le mouvement, parce que sinon, on fait le jeu du gouvernement. Si on repousse comme eux, j'espère qu'on aura des annonces des grosses centrales syndicales plus tard.
états-majors syndicaux qui n'appelaient pas à cette manifestation organisée par une coordination informelle des grévistes de la RATP et de la SNCF avec le syndicat Sud. Anas Kazib de Sudrail est l'un des organisateurs.
Cette manifestation, elle émane d'une coordination de secteurs de la RATP et de la SNCF. On s'est réunis le lendemain des annonces de Édouard Philippe et on s'est dit, c'est pas possible les amis, on peut pas attendre le 9 janvier sans rien faire, c'est-à-dire 20 jours. Donc on avait appelé le lundi 23 l'action à Gare de Lyon. Et la suite, c'était cette journée-là pour montrer que voilà, ce sont les grévistes de la base qui sont là. Donc voilà, c'était important d'être là.
Faites du bruit les grévistes !
Ils appellent à rejoindre les cortèges de samedi prochain avec Esperti des Gilets jaunes, déjà présents dans la rue aujourd'hui.
Un reportage de Grégoire Lecalot. Côté prévision de circulation, 60% des TGV demain selon la SNCF. 7 Ouigo sur 10 vont circuler, un Transilien sur 5, un tiers des Intercités et 4 TER sur 10. À Paris, à la RATP, même chose qu'aujourd'hui, 5 lignes totalement fermées. Les automatiques 1 et 14 qui fonctionnent normalement, les autres aux heures de pointe. La moitié des RER A est prévue, un tiers des RER B. Moins de trains, plus de monde en voiture, mais un bison futé plutôt optimiste pour ce week-end. Ce sera orange demain dans le sens des départs en Ile-de-France, mieux vaut partir tôt. Orange aussi samedi en Bourgogne, dans l'Est et en région Rhône-Alpes à cause des trajets vers les stations de ski. Vert pour le reste du pays et pour dimanche. Pas la peine en tout cas de s'arrêter faire le plein à chaque station, à en croire Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur l'assure, pas de risque de pénurie de carburant, seulement 2 dépôts bloqués ce jeudi. Là aussi, contre la réforme des retraites, il y a en tout 200 dépôts de carburant en France. Autre conséquence de cette grève, pas de festival de cirque à Massy dans l'Essonne cette année. C'est le plus gros rendez-vous du genre en France. 15 000 spectateurs en moyenne, une cinquantaine d'artistes, 26 années d'existence. Le rendez-vous devait avoir lieu du 9 au 12 janvier. 9 janvier, jour d'appel à la mobilisation de la CGT. Les organisateurs du festival préfèrent renoncer faute de transport.
Il est 18h07, les surveillants de prison ont désormais le droit de porter ce qu'on appelle des caméras piétons.
Des petits enregistreurs vidéo fixés sur le torse, expérimentation pendant 3 ans. Objectif, mieux prévenir les agressions ou enregistrer des preuves. Pour ça, il faudra une autorisation du chef d'établissement et un cadre précis, des missions jugées dangereuses ou un risque d'évasion. Les surveillants de prison subissent 4000 agressions par an. Ces caméras, c'est donc une bonne chose selon l'Observatoire international des prisons, mais il faudrait qu'elle puisse protéger tout le monde. François Besse est le coordinateur du pôle enquête de l'OIP.
Dès qu'il y a des témoins ou effectivement dès qu'il y a de la vidéo, ça ne peut que garantir d'éviter un certain nombre de gestes violents ou d'agressions. Maintenant, ce qu'on regrette nous, c'est qu'il y a un point qui n'est pas abordé, c'est celui des violences commises par les personnels sur les personnes détenues. On ne passe pas une semaine sans qu'on ne reçoive pas une plainte concernant ce type de violence commise par des personnels. Et il serait bon que l'administration s'attache là aussi à améliorer les choses. Il s'agit souvent de débordements lors d'interventions, etc. Et on n'arrive pas à avancer dans les enquêtes et dans les plaintes qui concernent les personnes détenues. Ce sont des choses à travailler parce que la surpopulation qui existe dans les maisons d'arrêt à l'heure actuelle, elle est quand même excessivement génératrice de violences et de violences des deux côtés d'ailleurs.
François Besse, coordinateur du pôle enquête de l'OIP. Luc Besson contre les chasseurs, la guerre des deux mondes, pour reprendre le titre d'un film d'animation du réalisateur. À ce stade, c'est Luc Besson qui l'emporte. La justice déboute les chasseurs de l'Orne. Ils lui reprochaient de laisser les cerfs proliférer dans sa propriété. Derrière, ce sont eux qui doivent payer les dégâts aux agriculteurs. Pas de preuve que ce sont les mêmes cerfs qui abîment les cultures, selon le tribunal. Luc Besson aime les suites à ses films. Il va être servi dans la vraie vie, puisque les chasseurs font appel de cette décision. 71 personnes secourues dans la Manche aujourd'hui, sauvetage par les autorités françaises et britanniques. Des migrants qui cherchaient à aller en Grande-Bretagne, beaucoup étaient en état d'hypothermie. Plus loin, plus vite, plus vert, objectif affiché de la loi d'orientation des mobilités. Elle a été publiée aujourd'hui au journal officiel, au programme entre autres 13 700 millions d'euros d'ici 3 ans pour développer les infrastructures et notamment travailler aux réseaux déjà existants. La fin d'ici 2040 aussi de la vente des véhicules essence ou diesel. À noter également la possibilité pour les conseils départementaux de repasser la limitation de vitesse de 80 à 90 km/h sur les routes dites secondaires. Dans tous les cas, vous connaissez la formule, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et pour ceux qui auraient du mal à choisir, ce sera peut-être bientôt à la voiture elle-même de trancher. Le gouvernement s'apprête à généraliser un nouveau type d'éthylotest en ce sens. Margot Steve.
Ces petits boîtiers que l'on installe dans la voiture, à chaque fois que l'on veut démarrer, il faut souffler. Si le conducteur a bu, le véhicule ne démarre pas. Le dispositif a été testé dans 54 départements cette année. L'idée, c'est de créer une alternative au retrait de permis si on est arrêté en état d'ébriété au volant. C'est le préfet qui décide de le proposer ou pas à l'automobiliste. Une solution qui permet à celui ou celle qui a été arrêté de ne pas perdre son travail, explique Christophe Castaner.
C'est une mesure qui, à la fois, est une mesure de répression sur l'alcoolémie au volant, et on sait la dangerosité que cela représente, et en même temps c'est une mesure qui prend en compte la réalité humaine et qui cherche pas à sanctionner en sanctionnant bêtement, mais qui cherche à laisser la possibilité au préfet de décider que la personne, sous condition de l'éthylotest antidémarrage, peut continuer à conduire et donc à garder son travail et à garder en fait toute une structuration sociale qui est absolument indispensable.
Le dispositif coûte entre 400 et 500 euros pour l'installation, auquel il faut ajouter environ 100 euros par mois comme une sorte d'abonnement, une facture qui revient en totalité à l'automobiliste.
Margot Steve. Qui est la femme dont le corps a été découvert hier matin à Mougins dans les Alpes-Maritimes, dépouille dénudée en partie calcinée? L'enquête s'annonce complexe, selon la procureure. Le corps était abandonné près de la technopole Sophia Antipolis.
Une primaire aux allures de référendum, ça se passe en Israël.
Les 116 000 adhérents du Likoud, parti de droite, sont invités à désigner le prochain chef de la formation, celui qui va mener la campagne aux législatives en mars. Une élection qui permet surtout de mesurer la popularité de Benjamin Netanyahou, chef sortant et premier ministre. Un seul rival, Gideon Saar. Bonsoir Frédéric Mettezo.
Bonsoir à tous.
Correspondant de France Inter à Jérusalem. Sur le papier, Benjamin Netanyahou est favori, mais ça ne veut pas dire que les choses sont simples pour le candidat.
Oui, le Likoud Ariane est un parti très stable, loyal et légaliste. Depuis sa création, il y a 46 ans, il n'a eu que 4 chefs qui ont tous été premiers ministres. Il n'y a pas eu de primaire au Likoud depuis 2014, alors le simple fait qu'il ait un candidat face à lui, eh bien c'est déjà inconfortable pour Benjamin Netanyahou. Le voilà obligé de mener une campagne interne, en plus de ses démêlés judiciaires, et alors qu'il préfère tellement voyager à l'étranger pour rencontrer les grands de ce monde. Netanyahou dirige le parti depuis 14 ans. Gideon Saar est sans doute son concurrent le plus sérieux en interne. Il estime que Netanyahou ne peut plus faire gagner son camp et il offre un vrai profil alternatif. Saar est réputé plus libéral sur les questions de société, moins attaché à l'alliance avec les religieux, mais il est aussi bien plus dur que Netanyahou sur le dossier palestinien. Gideon Zareshansky a changé son nom en Saar à l'âge adulte. Saar, ça veut dire tempête en hébreu, et justement c'est la tempête aujourd'hui en Israël. On verra bien si une tempête électorale emporte Netanyahou. Si ce dernier est battu, c'est un séisme politique. Mais même vainqueur, s'il obtient moins de 75% des voix, ce sera un échec relatif pour lui.
Les résultats sont attendus dans la nuit ou demain. Précision à Jérusalem de Frédéric Mettezo, correspondant de France Inter dans la région. Une campagne qui a aussi été mise à mal par le contexte géopolitique. Hier soir, Benjamin Netanyahou a dû être évacué d'un meeting à Ashkelon à cause de roquettes tirées depuis la bande de Gaza. Même scène qu'en septembre à Ashdod, il était cette fois en lice pour les législatives. Gaza, où les organisations palestiniennes appellent à suspendre les manifestations du vendredi le long de la barrière avec Israël. Elles reprendront dans 3 mois, disent ces organisations. Pas d'explication officielle. Le nombre de manifestants était en baisse ces derniers temps. Le gouvernement turc n'a pas le droit de bloquer l'accès à Wikipédia dans le pays. Décision de la Cour constitutionnelle, la plus haute instance juridique en Turquie. L'accès à l'encyclopédie en ligne est impossible depuis 2 ans à cause de 2 articles qui faisaient état d'un lien entre Ankara et des organisations extrémistes. Difficile pour autant de dire quand Wikipédia sera à nouveau accessible. L'autorité de régulation des télécommunications turques doit encore demander la levée de ce blocage.
Et pour terminer, Ariane, on en vient à ce cas de conscience habituel des fêtes de Noël. Ce cadeau, j'en fais quoi alors?
Oui, vous connaissez le « c'est gentil, fallait pas », mais alors vraiment pas. Parfois, on a dû prendre sur soi face à certains cadeaux de Noël, on va dire étonnants. 20% sont d'ailleurs désormais revendus sur Internet. Mais pour beaucoup, donner, c'est donner et revendre, c'est péché, comme vous avez pu le constater dans les rues d'Auxerre, Denis Bonin.
Et pourtant, eux aussi ont dû un jour faire bonne figure devant un cadeau moche comme Émilie.
Un stylo qui était particulièrement horrible.
Ou Richard.
C'était un pull.
un pull vraiment horrible que je ne mettrai pas parce que ce n'est pas du tout ce que j'aime.
Mais pas question pour autant de s'en débarrasser.
Il est quand même dans mon armoire. Étant donné que cette personne a fait l'effort d'aller acheter un cadeau, de l'emballer pour l'offrir, en soi, c'est déjà un beau présent.
Claude connaît aussi la valeur de ce genre d'attention.
La personne qui me fait un cadeau, bon, elle peut se tromper, mais je le garde. Dans ma jeunesse, j'ai pas eu beaucoup de cadeaux, alors quand j'en ai, même s'ils sont moches, tant pis.
Malheureusement, la société de consommation gagne toujours plus de terrain, selon Émilie.
Bah oui, c'est dommage, c'est la surconsommation, donc c'est dommage d'acheter beaucoup, ça ne plaît pas, on revend, donc c'est un peu...
Une tendance qui est aussi une question de génération, regrette Christelle, une mère de famille.
Franchement, moi j'en connais plein qui disent « Oh bon non, ça me plaît pas, je vais leur vendre ». Ça aujourd'hui, les jeunes, oui, mais c'est la génération super consommation, je veux ce que je veux et il n'y a plus le plaisir du cadeau surprise.
Un reportage de Denis Bodin de France Bleu Auxerre.
Voilà, le cadeau moche, ça va devenir pop culture après tout, pourquoi pas. Donc mon conseil, gardez-les, peut-être que ça vaudra de l'argent beaucoup plus tard. Merci beaucoup Ariane Grissel.